cette semaine avec le père Jacques Turc.
Marie, modèle pour l'Église. Au lendemain de l'Ascension, alors que les apôtres se trouvaient dans la chambre haute, au Cénacle, Marie est présente, assidue comme eux à la prière. Elle fut sans doute présente avec les apôtres au jour de la Pentecôte. Bien des icônes des églises d'Orient la représentent, assise au milieu d'eux, au jour de la Pentecôte, quand ils reçoivent l'Esprit-Saint. Et cette icône reflète bien la foi de l'Église naissante. Au centre de l'Église, il y a bien sûr le Christ, mais Marie se trouve aussi au centre de l'Église. Ce n'est pas sans importance à cet égard que l'épiscopat français se réunisse à Lourdes pour prier avec Marie et se laisser conduire par elle à la rencontre de Jésus. Notre Église en France et en bien d'autres sanctuaires où Marie est venue à la rencontre des chrétiens, tels que Juan Diego au Mexique, Bernadette à Massabiel, les trois enfants à Fatima, et d'autres encore qui, à travers Marie, ouvrent l'Église aux plus pauvres. Invitation à vivre le même itinéraire de sainteté que celui de Marie, qui devient ainsi notre modèle. En se conformant comme Jésus à la volonté du Père, offrant notre vie selon le modèle que Marie nous présente de cette marche. Il s'agit ainsi pour nous, personnellement, et pour toutes les petites communautés ecclésiales, de se laisser conduire par le même chemin d'humilité à servir l'annonce de l'Évangile. Cela suppose d'être ouvert, en permanence, aux imprévus des appels du Seigneur, comme Marie. Comme pour la jeune fille de Nazareth qui s'est laissée choisir pour une si fantastique et inattendue mission, l'Église est invitée à prendre modèle de Marie. Comme elle, nous sommes tous convoqués, par pure grâce, sans aucun mérite, à faire prévaloir cette mission. Aucun d'entre nous ne peut revendiquer d'en avoir été digne, ce qui nous oblige non seulement à l'action de grâce, mais à la plus grande des modesties. C'est ainsi que l'Église doit assumer sa mission, jamais de manière triomphante. L'Église et chacun de nous ne pouvons nous égarer loin de ce chemin tracé par Marie et s'imaginer pouvoir s'abandonner à ses seules forces. Une telle prétention conduirait les non-chrétiens à nous fuir. Ce serait le cas à chaque fois que nous lisons l'Évangile à l'envers, c'est-à-dire si nous commencions à l'imposer par quelques obligations morales. Le changement de nos modes de vie ne peut venir que si nous avons d'abord rencontré le Seigneur, si nous avons d'abord accepté son regard sur nous, que si nous avons contemplé ce qu'il a vécu pour nous avec un cœur de chair toujours ouvert à la compassion, celle qu'il manifestera au bon larron qu'il appelait à l'aide. De ce dialogue de salut, Marie fut témoin au pied de la croix. Elle entendit ce dialogue, le cœur de son fils transpercé sous ses yeux, comme le sien, au même moment, comme le vieillard Siméon l'avait prédit, un glaive te transpercera le cœur. Une épée, vous l'avez déjà remarqué, a toujours une forme de croix. Marie ne peut pas ne pas souffrir des souffrances de son fils. Elles lui sont imposées par cette croix qui est en même temps un glaive. Et sans qu'elle ait choisi de vivre ce drame, elle participe ainsi à l'humiliation de son fils et à la sienne. C'est une épée à double tranchant. Une épée qui ouvre le cœur et qui en même temps de ce cœur jaillit la vie. Mais le Christ Jésus lui-même souffrait de la souffrance imposée à sa mère. Combien il devait être endolori de voir sa mère dans telle souffrance en le voyant mourir. Tout se rejoignait, la prière de Jésus à son Père et celle que Marie prononçait lors de l'Annonciation. « Non pas ma volonté, Père, disait Jésus, que tout se passe pour moi comme tu me l'as dit, a dit Marie. »